Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, merci de m'accueillir une nouvelle fois pour cette nouvelle saison. Poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter un peu où vous voulez, hein, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro ou même du côté de Miami. On en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Pardon. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité que tu connais bien. Il a suivi tes traces du côté de Jean Bouin.
Oui Arnaud, ben on le sait, c'est la reprise de notre cher Top 14, on l'a vu ce week-end avec ses affiches alléchantes, son public en fin de retour. Ça fait du bien de se dire aussi que le rugby amateur va retrouver ses barbecues, ses supporters, ses joutes dominicales et ses minots qui cavalent partout. Pour ma part, je suis pas peu fier de vous le dire et d'avoir vécu ce moment si particulier que de voir mon premier fiston fouler la pelouse pour la première fois d'un terrain de rugby au RCP 15. Il y a ceux qui débutent et ceux qui... sans club, malheureusement, sont obligés parfois de mettre un terme à leur carrière. Blessures à répétition, contre-performance, trop vieux pour continuer ou tout simplement sans club, ils ont été une soixantaine cette année à se retrouver au chômage. Certains rebondissent dans des catégories inférieures et d'autres font le choix de s'exiler, pour tenter l'aventure à l'étranger. L'une des grandes complexités d'ailleurs, et on va en parler, est d'arriver à accepter que le corps vieillit à un âge où normalement nous sommes en pleine ascension professionnelle. Hugo Bonneval a fait partie de ces types, bercés par le rugby depuis l'enfance. En France surdoué de la génération des Plisson, Flancard, Camara, Danti et autres Slimani, il est champion de France en 2015 avec le Stade français, et après une bonne centaine de matchs sous le maillot rose, il décide de tenter l'aventure avec le RCT puis la section paloise. Après de nombreuses blessures, c'est une autre aventure qui se présente à lui, aujourd'hui les États-Unis, et je l'apprends, Miami. Alors connaître la gloire, se blesser, partir, se remettre en question, emmener femme et enfant, et Hugo en a trois, au bout du monde pour tenter de se relancer une dernière fois à 31 ans, peu d'entre nous oseraient tenter cette aventure, et je trouve son parcours, son audace, inspirant à bien des égards. C'est pourquoi nous avons décidé, Arnaud et moi-même, d'inviter Hugo Bonneval pour qu'il nous parle de sa carrière, de sa vie d'homme. Donc merci et bienvenue Hugo dans Poulain Rafute. Salut.
Merci beaucoup. Bah écoutez, merci de m'accueillir. Bonjour à tous et merci pour ce magnifique, ce magnifique petit mot, voilà, que tu me mets, Raph. C'est très 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 gentil.
Alors messieurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Raphaël a effleuré un peu le sujet. On ne sait pas exactement quelle est l'actualité, hein, d'Hugo Bonneval. On a perdu un petit peu ta trace à la fin de ton contrat, Hugo, au mois de juin dernier. Tu étais en fin de contrat avec la section paloise. Aujourd'hui, tu es sans club officiellement, mais tu n'as pas annoncé la fin de ta carrière. Donc, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Ça aiguise notre curiosité. C'est quoi l'actualité d'Hugo Bonneval et l'avenir immédiat?
Bah écoute, ouais, voilà, j'ai fini mon contrat avec la section paloise le 30 juin. Je me suis fait opérer en fait du genou une nouvelle fois, une nouvelle fois supplémentaire. Voilà, c'était la cinquième fois. Parce que depuis la première opération de mon genou et de mes croisés en 2014, ben voilà, ça c'est une dégénérescence programmée, obsolescence programmée, on va dire. Je sais pas comment tu dis ça, mais ouais, voilà, j'ai toujours un bout de ménisque qui se balade, un bout de cartilage qui coince. Donc c'est vrai que sur les deux dernières années, les deux derniers étés, à chaque fois, je suis repassé par la case opération, donc arthroscopie. Et là, j'ai fait une nouvelle arthroscopie avec, en plus de ça, je ne suis pas médecin, hein, je connais un peu mon genou, mais je ne suis pas médecin, avec une mosaïque reconstructive, qui est un magnifique mot pour dire qui perce. J'avais un trou dans le cartilage sous le genou, tout simplement, enfin dans le genou, voilà. Donc, ils essayent de percer autour pour que ça saigne, pour que ça coagule, pour essayer de boucher les trous. Voilà, donc j'en suis là.
Hugo, t'es parti du stade en 2016, t'es champion de France.
2017.
2017, pardon, au RCT. C'était quoi ton ambition de, c'était quoi de partir, voir, découvrir un petit peu le monde? Alors moi, ce que je remarque un petit peu des parcours de pas mal de joueurs aussi qui vivent dans leur club, c'est qu'il y a un moment, on a envie, et Jules l'a fait aussi, on a envie d'aller découvrir autre chose, un autre univers, peut-être prendre un petit peu d'indépendance par rapport à son club de cœur. Est-ce que c'était quoi tes sources de motivation pour aller au RCT? Parce que vous aviez, alors, on reparlera aussi du Stade Français. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt de pas mal de petites complexités qui arrivaient au Stade Français. Vous gagnez ce titre et puis après derrière, voilà, il y a une volonté après le titre de la petite Coupe d'Europe de partir. Est-ce que c'est une volonté de s'émanciper, d'aller découvrir autre chose?
Alors c'est plusieurs choses. La première, si je prends un cas personnel, c'est que j'arrivais à un moment de ma vie où j'avais 26 ans, donc. Et que j'avais la possibilité, j'étais en discussion aussi avec le Stade français, j'avais la possibilité de re-signer avec le Stade français. Tout ça se passe en début de saison, parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il y a cette histoire de fusion, cette accumulation de joueurs aussi qui part, où que ce soit Saint-Zel, Slimani, Doumerou, Lacafia, Jono Ross, voilà, il y a quand même plusieurs joueurs qui aussi partent. Hein. Mais moi, je me disais à 26 ans, le choix, il est très simple. Soit je re-signe au Stade français et je connaîtrai qu'un club, parce que ce n'est pas à 29 ou 30 ans que je partirai. Soit je tente un coup. Voilà. J'avais déjà discuté avec Toulon les années précédentes, mais j'étais beaucoup trop jeune à mon goût. C'était encore quand ils étaient avec Bernard Laporte. Et j'avais aucune légitimité et aucune envie de partir, tout simplement. Et puis voilà, là, ça s'est fait d'une manière différente. J'étais un peu plus âgé. Et puis voilà, j'arrivais face à ce choix un peu difficile de me dire, soit je reste ici et à moins qu'il me vire après ou qu'il ne me conservera pas sur les prochains contrats, mais à 29-30 ans, je ne serais pas parti. Parce que ma vie aurait été à Paris, parce que mes enfants auraient été scolarisés à Paris, parce que. Et après, voilà, c'est autre chose. Donc, j'ai pris ce choix-là, initialement personnel. Et en fait, quand tu vois comment évolue la saison et comment évoluent les contrats aussi des autres joueurs et ce qui amène à terme, en fait, cette envie de fusion par certains et puis surtout cette envie de Monsieur Savard, qui était le président à l'époque, de vendre le club, parce que tout simplement, il ne voulait plus. Tu te rends compte, en fait. Tu comprends un peu, voilà, pourquoi d'autres joueurs sont partis. Peut-être que pour vendre, je suis pas un financier expert, mais il fallait peut-être réduire les masses salariales aussi pour avoir un acheteur qui puisse arriver avec son projet, son envie, et qui se retrouve pas avec une masse salariale sur les épaules conséquente qui lui donne pas envie de l'acheter. Donc je me dis que voilà, c'était une année particulière pour beaucoup, parce que mine de rien, tu pars pas comme ça. Enfin, moi, j'étais pas de passage, on va dire. J'étais pas là depuis 3 ans, quoi. Je n'avais connu que ça.
D'ailleurs, tu n'as connu que ça, mais tu as connu justement les galères du Stade français, la sortie aussi de Max Gosini qui est sorti par la petite porte, malheureusement. Tu as connu aussi l'arrivée de Domi qui a entraîné. Tu as connu tous ces changements, cette révolution où le stade a été reconstruit. Vous avez été obligé de vous entraîner à la Cité U. Enfin, donc
Ouais.
voilà, y a, au bout d'un moment, tu fais aussi le bilan. Tu te dis, voilà, dans ma jeunesse, j'ai quand même vécu dans un des clubs les meilleurs en France, certes, mais bon, au niveau des infrastructures, c'est toujours voilà, une espèce de montagne russe. Déjà qu'une carrière, c'est une montagne russe, mais en plus de le vivre dans ce club-là, il y a peut-être aussi une volonté d'un peu de stabilité, ouais.
Ouais, après, tu sais, moi j'ai connu ça au début, j'étais très jeune. Tu vois, moi j'arrive, je joue en 2009, mon premier match. T'as encore la muscu à Géo André, etc. Mais quand tu connais que ça, que tu as 18 ans, 19 ans, c'est normal. Tu vois, quand tu connais que les histoires que vous avez créées, que tu t'es bercé par ça. Tu vois, les samedis soirs après match, les paris, ce que ça représente, aller entre guillemets en province jouer, ce que ça représente, les défis. Enfin, tu connais que ça, donc c'est pas, tu te dis pas, waouh, ailleurs, c'est génial, ils ont une salle de muscu qui clignote. Tu t'en fous de ça, en fait, quand tu as 18 ans ou 19 ans, tu vois, déjà, tu veux jouer. Enfin, moi, en tout cas, je veux jouer. Et Paris, quoi qu'on dise, c'est la plus belle ville du monde, donc tu es dans le. Tu vois, voilà, oui, Max, moi, je devais avoir 15 ans, j'ai ramassé le ballon au Stade de France pour un Stade français, Stade toulousain. Enfin, tu vois, ce que Max a fait à ce moment-là, enfin les années avant, parce que Max, je l'ai eu que 2 ans ou 3 ans président, tu vois, c'est personne dans le monde du rugby n'a fait ce qu'il a fait, tu vois, et aujourd'hui, ils essayent tous de remettre du public, mais il n'y a qu'un mec qui a réussi à en mettre 80 et à les remplir, tu vois. Donc non, c'est pas ce côté-là, mais c'est pas parce que tu es plus jeune et bien évidemment, avec le recul, tu te dis, waouh, putain, la CTU, on prenait le tramway pour aller au terrain d'entraînement. Mais toi, tu as 18 ans, finalement, c'est pas trop choquant pour toi. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait des mecs comme Sergio, comme Pascal, comme Pierre, comme des étrangers comme James Haskell, des mecs qui ont 50, 60, 80 sélections, qui, eux, par contre, voilà, eux, ils sont restés à ce moment-là. Et c'est à eux, entre guillemets, que tu dois redonner tout le crédit, parce que eux, je pense qu'ils avaient des offres bien plus alléchantes et bien plus sécurisantes, on va dire. Mais Paris, ça reste, voilà, tu sais ce que c'est mieux que moi, voilà, ça a un charme particulier, ça a quelque chose qui t'accroche, qui est compliqué à matérialiser, à exprimer, quoi. Mais c'est pareil.
Hugo, pour recentrer un peu le débat, on a bien compris que voilà, en 2017, il y a eu cette envie d'aller voir un peu ailleurs, de peut-être de t'affranchir aussi de tout ce que tu avais connu jusque-là, que c'était le bon moment pour toi. Aujourd'hui, cette envie d'ailleurs, elle existe encore. Est-ce que aujourd'hui, tu as des certitudes pour pouvoir éventuellement poursuivre ta carrière? On a lu dans la presse qu'éventuellement une expérience en MLR, donc dans la nouvelle compétition créée aux États-Unis, pourrait éventuellement te séduire. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que tu attends d'en savoir un peu plus sur l'état de ton genou pour te positionner? Qu'est-ce qu'il en est?
Ouais, c'est totalement ça. En fait, ma deuxième, non, le début de ma dernière saison à Toulon, je me suis blessé gravement à l'ischio-jambien. Je me suis désinséré les ischios, donc à gauche, j'avais tout arraché. J'avais un trou de 4 cm au niveau de la cuisse gauche, de l'insertion entre la fesse et la cuisse. Et donc, j'ai commencé ma rééducation. Bon, bah voilà, hein, toujours le même processus. Et puis, en discutant, que ce soit avec Alex Marco, que j'avais eu au Stade français, qui était à Toulon à ce moment-là, et même avec Patrice, qui a été très honnête et très gentil avec moi de ce point de vue-là, je lui ai dit que je lui ai demandé si je pouvais aller faire ma rééducation un peu à l'étranger. Parce que passer encore un an. Bah, voilà, tourner en rond, c'est dur, quoi. C'est dur, je l'avais connu avec le genou à Paris. Voilà, c'est dur parce que tu n'es pas là et tu tournes en rond. Et Patrice et Alex, avec l'accord du docteur et avec tout ce qui avait pu être mis en place, j'avais réussi à partir faire ma rééducation, toute ma réathlétisation aux États-Unis. Voilà, à Miami, avec ma femme et les enfants, donc aussi, qui étaient avec moi. Et c'est vrai que ça a été une bouffée d'oxygène. Enfin, c'est un truc de dingue. Voilà. Après, ils sont très bons aussi. Tout ce qui est réathlétisation, tout ce qui est performance, voilà, ils sont à la pointe de tout. Et ça avait été génial. Et c'est vrai que là, bon, bah, je suis revenu. La saison s'est finie. Avec le coronavirus, je n'ai pas pu rejouer. Derrière, donc, je signe à la section paloise. Et c'est vrai que là, bon, bah, encore une accumulation de douleur au genou, etc. Donc, obligé de repasser à nouveau sur le billard. C'est vrai que ça m'est resté dans un coin de la tête. Voilà. Aujourd'hui, je veux surtout, avant toute chose, que mon genou aille bien, que mon genou soit de nouveau compétitif, pour que moi, en tant que joueur, je sois compétitif et que dans ma tête, je sois 100% impliqué bah, dans la performance et pas dans la crainte ou dans la douleur. Mais oui. Moi, j'ai envie de jouer. Voilà, j'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans en novembre.
C'est pas vieux.
Ouais, ça dépend des corps, ça dépend des cerveaux de chacun et ça dépend de. Voilà, moi, je pense que. Enfin, j'aime encore ça. Donc, c'est surtout ça. Après, c'est pour ça que je suis reparti à nouveau aux États-Unis, là, après l'opération du genou, là, fin juin, pardon. Pour refaire une prépa là-bas, une réathlétisation au même centre que j'avais fait précédemment pour mon ischio. Et voilà, je veux que mon corps me donne peut-être pas 100, 150% comme il a pu me donner, mais qu'il me donne son maximum aujourd'hui. Et en fonction de tout ça, je verrai ce qui s'offre à moi et où j'en suis en tant que papa, en tant que joueur, en tant que tout. Mais non, j'aimerais encore jouer, bien sûr.
J'aimerais bien, moi, vous entendre parce que quand j'écoute un peu ton parcours, Hugo, Ce qui me laisse penser que ta reconversion dans la médecine pourrait être une éventualité d'ailleurs, parce que je crois que tu connais bien le corps humain maintenant. Mais Raph, tu as connu aussi ces accumulations de blessures. Hein. On dit que tu es le joueur qui compte le plus de titres de champion de France sans jamais avoir joué de finale à cause de ces blessures. J'aimerais bien vous entendre échanger justement sur ces moments de doute, parce que j'imagine qu'à force de passer du temps à l'infirmerie, entre les mains des kinés, dans les centres de réathlétisation, ça ne doit pas être simple, hein, messieurs.
En fait, comme l'a dit Hugo, je pense que la douleur la plus forte, elle est certes physique, mais en fait, elle est psychologique, parce que du jour au lendemain, tu te blesses. Tu es dans des clubs en plus performants. On parle du Stade français, on parle de Toulon, donc ils visent le titre. Toi, tu te blesses aux deux tiers ou aux trois quarts ou même aux quatre cinquièmes de la saison. Donc déjà, les titres, au-delà des titres, en fait, c'est le voyage que tu ne fais plus avec tes potes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu te retrouves avec les kinés qui deviennent tes psychologues parce qu'il n'y a pas de suivi psychologique aussi, d'accompagnement. Il y a la réathlétisation physique après l'opération, mais il n'y a pas une forme de réathlétisation psychologique, de garder le cap aussi. Parce que quand tu vois tes potes, Hugo le disait, t'es absent, mais en fait, t'es présent. Et c'est ça le problème. C'est que t'es spectateur, en fait, d'un théâtre de vie qui est extraordinaire, auquel t'as goûté, et que du jour au lendemain, t'es spectateur de tout ça et tu peux pas jouer. C'est-à-dire que ton corps, t'as envie de le pousser à fond, t'as envie de revenir le plus vite possible. Parfois, tu reviens aussi trop vite. Moi, c'est la caricature. Les gens m'ont mis dans une caricature que je faisais trop la bringue, que j'étais, mais c'est pas ça. C'est que quand tu reviens trop vite et que t'as envie, justement, d'appartenir au groupe, parce que la gamelle, elle est bonne, et je parle pas d'oseille et je parle pas de supporters, je parle juste du voyage que tu fais du 1er septembre jusqu'au 31 juin. Oui, tu vas peut-être soulever le bouclier, mais c'est tout ce putain de voyage. Et quand tu le fais en spectateur, c'est hyper dur psychologiquement. C'est ce que je dis depuis des années. Un accompagnement psychologique de l'accompagnement de la blessure est essentiel aujourd'hui, parce que cette solitude, elle est abyssale. T'es dans un club, t'es dans un groupe où tu vis, tu trouves ta place, et du jour au lendemain, t'es recraché du bus. Et puis, pour y revenir, bah, t'as d'autres mecs aussi qui poussent. Et puis au fur et à mesure, voilà, les gens aussi de l'extérieur, les médias te mettent une espèce d'image aussi de chat noir, de mec, oui, j'ai loupé toutes les finales, mais en attendant, est-ce que quelqu'un a essayé de comprendre le pourquoi du comment je m'étais blessé? Moi, je l'ai compris. Et je comprends Hugo aussi dans cette solitude où, et au Stade français, et à Toulon, et à la section paloise, il y a une volonté, en fait, de revenir sur le terrain. Il y a peut-être une volonté aussi inconsciente de prouver qu'allez tous vous faire foutre, en fait, si, je suis encore bon et mon corps est encore bon. Et puis, en tant qu'homme, envie avec nos enfants et puis notre femme aussi de pouvoir partager ces moments-là parce qu'ils sont forts et qu'à 30 ans, en fait, t'es aux deux tiers de ta carrière. Et je sais pas ce qu'en pense Hugo, mais t'as envie, à un moment donné, si tu le fais plus pour les autres, tu le fais pour toi, avec les autres, tu le fais pour tes enfants, pour ta femme, parce que quand tu te retrouves du jour au lendemain, seul, avec rien, juste ta femme et tes enfants, c'est très, très, très compliqué. Et je pense que Hugo peut en témoigner. Moi, je n'avais pas d'enfant. Hein. J'ai arrêté à 28 ans. J'avais pas d'enfant. Et heureusement que j'avais pas d'enfant, parce que tu deviens fou déjà tout seul, mais après, devenir fou avec des enfants qui peuvent te faire garder le cap, mais c'est très difficile.
C'est ce que je veux dire. Paradoxalement, de dépression les aussi, enfants. Paradoxalement, les enfants, ils t'apportent autre chose que.
Aussi.
Enfin, ouais, c'est. Parfois, c'est dur, parfois, c'est. Mais c'est cool quand même de les avoir.
Ouais.
c'est cool de les avoir. Non, dans tout ce que tu dis, je crois que t'as pas beaucoup faux. c'est dur, mais ça fait partie de la vie d'un sportif, je pense. Après, il faut l'accepter aussi. Je crois qu'il faut. C'est trop facile de dire oui, mais bon, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui sont plus fragiles que d'autres. Il y en a qui se blessent jamais. Il y en a qui se blessent. Il y en a qui se blessent souvent, mais au bon moment. Tu vois, et ils jouent quand même les matchs importants. Il y en a qui se blessent malheureusement au mauvais moment à chaque fois qu'ils se blessent. Pas, peut-être qu'il y a des mecs qui se sont blessés deux fois dans leur carrière et ils n'ont pas fait deux finales, tu vois. Et après, ils ont fait 300 matchs. Tu peux pas. La seule chose que tu peux faire, c'est donner le meilleur de toi-même. Il y a un moment où tu dois te regarder dans la glace. Tu sais si tu sors, tu sais si tu picoles, tu sais si tu fumes. Ça, les autres ne le savent pas, mais toi, tu le sais. Tu vois, moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je... Voilà, je sais ce que j'essaye de donner, ce que je demande, ce que j'impose à mon corps. J'ai encore cette résistance, on va dire, mentale de continuer à lui imposer. Encore combien d'années, combien de mois, je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais que je lui impose encore beaucoup de choses parce que je veux pas c'est pas avoir des regrets, c'est je veux pas, oui, peut-être un peu des regrets, mais je n'ai pas encore la force, en tout cas mentale, de me dire que c'est fini. Donc je fais tout mon possible pour essayer de continuer.
Paradoxalement, Hugo, ce qui est assez incroyable, c'est que tu as toujours eu l'image d'un joueur qui faisait attention à son hygiène de vie. Pour t'avoir suivi de longues années au Stade français, Je t'ai jamais vu ivre mort, je t'ai jamais vu cloper, enfin fumer. Tu as toujours fait très attention à ton corps. On le voit aujourd'hui, tu es encore un athlète. Tu as fait quelques fois le calendrier des dieux du stade. Max n'aurait pas pris un petit cochon, entre guillemets. Est-ce que ce n'est pas d'autant plus frustrant quand tu sais que tu t'imposes justement cette hygiène de vie, de voir que ton corps, malgré tout, est en souffrance?
Ben moi, je ne le prends pas comme une frustration parce que je me dis au moins… Au moins, je me mens pas et au moins, je fais le truc. Je pense que c'est plus dur. Enfin, pour moi, en tout cas, dans ma manière de voir les choses, ça me paraît plus dur de ne pas faire les efforts et de te péter. Parce que là, tu réfléchis. Tu te dis, et si j'avais? Moi, j'ai fait. C'est comme ça. Tu vois, je ne me dis pas, et si? Alors, j'aurais pu me dire, putain, et si tu aurais dû te mettre des caisses, en fait, tous les jours, quitte à être pété, tu vois, comme ça, tu t'en fous.
C'est peut-être pas la meilleure solution. Enfin, après, je suis peut-être
là. non, mais tu vois, au moins, j'ai pas cette question à me poser à moi-même de me dire et si je l'ai fait. J'ai été sérieux, je pense l'être, je pense faire attention, je pense voilà. Donc après, mon corps réagit comme, enfin voilà, tu vois, mon père s'est pété les deux croisés, 500 fois les genoux. Arthur, mon demi-frère, malheureusement, Toulouse a fait le doublé l'année dernière, il s'est pété le tendon d'Achille et les deux mains. voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a certaines choses qui sont héréditaires aussi, tu vois, voilà, moi je sais ce que j'essaye d'imposer à mon corps et ce que je me donne comme opportunité. Après, ça passe pas, mais au moins j'ai pas ce regret là.
Tu parles du corps et le mental dans tout ça. Est-ce que tu t'es penché un petit peu sur l'approche mentale, la préparation mentale? On en parle de plus en plus en France, on sait que ça a été tabou pendant des années. Est-ce que tu as cette approche là aussi, non pas d'essayer de comprendre et de décortiquer le pourquoi du comment tu te blesses, même si je pense il peut y avoir des leviers qui te permettent de comprendre et puis mais est-ce que toi t'as touché un petit peu à ça? Est-ce que ça te parle ou t'es très terre à terre et auquel cas ça te parle pas du tout?
Écoute, je suis pas quelqu'un de très très expressif, expansif. Je sais pas comment tu peux le faire. Donc parler avec beaucoup de monde, c'est pas quelque chose qui m'est très facile, on va dire, ou au moins de raconter ma vie.
Je peux confirmer parce que pour avoir une interview d'Hugo Bonneval, il fallait ramer à l'époque. Hein.
Après, au Stade Français, quand on était jeune, on avait la possibilité de voir la psychologue, ouais. D'ailleurs, qui nous était imposée, je crois, une fois tous les trimestres. Quand on était au centre de formation, qui était Myriam, qui était une femme exceptionnelle, qui s'occupe de Teddy Riner aussi, qui a l'INSEP. Mais tu vois, la petite anecdote, c'est que la première fois que je l'ai rencontrée, donc c'était des entretiens de 20-30 minutes, je me suis assis, je n'ai pas dit un mot, elle s'est assise, elle n'a pas dit un mot. Voilà, la première fois. Voilà. Mmh. Donc elle m'a dit, bah, voilà. Bon, elle a été très forte finalement avec moi parce qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire, mais c'est vrai que la première fois, voilà, je me suis assis, j'ai rien dit, ben, elle n'a pas parlé non plus. Donc 25 minutes à se regarder dans le blanc des yeux, c'est long. je sais pas, j'essaye de pas trop apporter d'importance à tout ça parce que je me dis qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de facteurs de tout, tu vois. Tu peux te lever, enfin, il y a plein de joueurs qui ont des enfants, mais tu peux te lever en disant, putain, mais mes enfants n'ont pas dormi la nuit, donc je suis fatigué. Donc ça se passe pas bien, donc je suis pas bien. Donc en fait, j'essaye de pas trop apporter d'importance à tout ça. Peut-être que je devrais plus, hein, mais parce que je me dis qu'on est sur un chemin qui est celui du sportif où on a, je pense, beaucoup de chance avant tout. On fait quelque chose qu'on aime. On se lève le matin, que ça soit tôt, que ce soit tard, pour faire quelque chose qu'on aime. Faisons-le à fond. Voilà, le voyage est ce qu'il est, donnons tout et à la fin du voyage, tu regardes. Mais pendant le voyage, si vas-y, donne. Après, on verra.
Avant de passer à une autre thématique avec Hugo et toi aussi, Raph, Raphaël a évoqué le regard des autres. Est-ce que quand on est joueur sportif de haut niveau, qu'on a des objectifs, qu'on est une personnalité publique, qu'on est sujet aux critiques, aux dithyrambes mais également, encore plus aujourd'hui avec l'apparition ces dernières années des réseaux sociaux. Est-ce que le poids du regard des gens est difficile à supporter quand on est blessé, quand on est en marche, qu'on entend parfois des colibets, des moqueries? Est-ce que c'est difficile à supporter quand on est athlète de haut niveau?
Oui, je ne veux pas te dire non. Tu vois, en tout cas pour moi, ça, c'est particulier. Ça l'est. Pour donner de la motivation, en tout cas pour moi, ça me permet d'avoir une motivation supplémentaire. Et après, ça te touche quand ça touche ta famille ou quand ça touche ton éthique de travail. C'est ce que je te disais, tu vois, tu peux être mauvais, tu peux te blesser, tu peux tout ça, mais quand ça vient toucher des choses où toi, tu te dis, putain, je... Être nul, ça arrive à tout le monde. J'ai été nul des milliards de fois, loupé. Mais remettre en cause son éthique de travail, tu vois, c'est ça qui fait plus mal parce que tu te dis, j'ai été nul, ok, mais je fais pas exprès d'être nul. Tu vois ce que je veux dire? Ou je fais pas. Tu vois, je. Non, mais j'essaye de mettre tout en œuvre pour donner le meilleur de moi-même. Les réseaux sociaux, moi, j'adore les mecs qui disent c'est dur. Mais s'il y a 15 ans, Yannick Jozion ou Cédric Emmanse avaient eu des highlights sur YouTube comme certains en ont aujourd'hui, ils auraient quoi? Ils auraient 2 millions d'abonnés. Tu vois, je veux dire, ça me fait. Aujourd'hui. T'assois un mec dans le couloir des 5 mètres, tu es sur YouTube pendant 6 mois. Cédric Emmanse, il en a assis des mecs quand même. Il en a électrocuté des mecs. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Yannick Jozion, le platane au milieu du terrain, il en a désossé des mecs. Aujourd'hui, tu vois, les mecs, tu mets un cul, t'es tout de suite. Donc, il y a les pour et les contre. Et il y a bien évidemment les bons côtés et les mauvais côtés. Mais tu peux pas critiquer en disant ouais, c'est dur, je me fais insulter, ouais, ça, parce que derrière, ça rapporte énormément. Aujourd'hui, Raph a commencé bien avant moi. T'imagines si, avec l'engouement que vous aviez eu les réseaux sociaux dans le bon sens, en termes d'image, en termes de publicité, en termes de tout ça, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Tu vois, tu peux pas cracher dans la soupe non plus tout le temps. Alors parfois, c'est dur, parfois, tu te retrouves face à des mecs sur les réseaux qui ont une paire de. Bon, je dirais pas le mot, qui sont décuplés parce qu'ils sont derrière leur petit clavier et qu'en vrai, finalement, c'est les premiers à vouloir que tu fasses une photo avec leur fille ou leur petite fille. Mais ça fait partie du jeu. Tu peux pas vouloir que les bons côtés partout. C'est pas possible. Donc, faut s'adapter. Je sais pas ce que t'en penses, Raph, hein, mais je.
Non, mais moi j'ai pas connu les réseaux sociaux. Par contre, ce qui a été dur en fait sur la fin de carrière, mais moi la mienne a été bien plus tôt que la tienne, et je te la souhaite encore grande, hein, très honnêtement. Hein, mais moi j'arrête à 28 ans, mais quand j'arrête, je fais un match en fait avec les espoirs du Racing à Grenoble où je me pète au bout d'un quart d'heure. Et là t'as un mec, mais tu vois, qui est dodu comme il en peut plus, qui vient me voir en disant: Poulain, si t'avais pas autant picolé pendant ta carrière, t'aurais fait autre chose. Mais qu'est-ce qu'il connaissait de ma vie? Parce que moi, j'avais un rapport à mes parents qui était très particulier. J'ai porté mes parents dans les stades. J'ai été le j'ai enfin les calendriers, pour moi, c'était quelque chose d'assez lunaire. Me retrouver à jouer avec Dominici alors que 2 ans plus tôt, j'enlevais des betteraves montées pour m'acheter un casque de mobylette. Tu vis quelque chose qui est extraordinaire, et l'avoir vécu comme ça, starifié hyper rapidement, où on me dit je suis l'espoir du siècle, et puis derrière tu vois les Fred Michalak, les Seb Chabal qui percent au fur et à mesure, et toi t'as pas les clés du bordel, et que d'être caricaturé comme ça après derrière. Et heureusement qu'il n'y a pas eu les réseaux sociaux, parce que je sais pas comment je l'aurais vécu, mais je suis peut-être plus dans l'extraversion que toi. Il y a un moment où c'était pas une question d'image. C'est comme tu le dis, les gens savaient pas qu'au bout d'un moment, j'avais squeezé en 2003 après m'être pété le bras. J'avais envie, en fait, de prouver que j'étais capable de performer, de moins picoler, de moins faire la fête. Et comme tu l'as dit, t'as Paris, tu prends, t'as toutes les portes des boîtes ouvertes. Moi, j'arrivais de Picardie, le rugby pour moi, c'était lunaire. J'avais des bagnoles de sport. J'étais une vraie caricature et je l'entends. Mais à un moment, j'avais fait le choix de squeezer. Et ce choix-là, après, je suis toujours resté dans cette espèce de caricature. Et pour conclure, je l'ai vécu aussi dans le cinéma. On m'a toujours catégorisé comme le mec qui va faire videur de boîte. Et voilà, j'ai jamais eu de rôle pour les gens, pour qu'ils le voyaient à l'intérieur. Donc c'est difficile, en fait, entre ce que tu représentes et ce que tu es. Ce que tu représentes, ça a l'impression que ça ne t'appartient pas, parce que ce sont les supporters qui ont ton image et ils en font ce qu'ils veulent. Et après, c'est pour ça que le coaching mental est important, et la psychologie, c'est de se connaître soi-même pour pouvoir s'en détacher. Mais force est de constater à 30 ans avec le discours que t'as. Et puis c'est ta génération aussi qui a vécu avec les réseaux sociaux. C'est qu'à un moment, il faut arriver à se détacher du regard des autres. Et c'est pas évident quand tu vis quelque chose qui est très fort, quand tu es dans l'émotion, c'est pas évident. Mais d'un autre côté, je l'ai pas vécu. J'ai arrêté au moment où les réseaux sociaux commençaient à arriver. Et je pense qu'heureusement, j'ai pas vécu avec ça. Ouais.
On va parler justement de l'après-carrière maintenant, parce que Hugo, en 2 saisons, c'est seulement 10 matchs, si je ne dis pas de bêtises, avec Toulon, puis avec la section, avec évidemment cette saison qui a été tronquée l'année dernière. Est-ce que durant cette période, tu t'es posé la question de définitivement raccrocher, ou est-ce que du coup, tu en as profité aussi pour préparer ton avenir? Est-ce que tu sais de quoi demain sera fait?
Non, pas spécialement. J'ai pas profité de ce temps-là pour penser à l'après parce que mentalement, j'ai pas encore raccroché. Mais c'est pas pour autant que je prends pas ce temps-là comme un temps bénéfique pour faire autre chose. J'essaye de faire autre chose. J'ai des investissements immobiliers. J'essaye de, voilà, de faire mon petit bonhomme de chemin à côté. Mais non, j'ai pas encore mentalement, voilà, j'ai pas encore changé de casquette. Donc c'est compliqué de voilà, vraiment de fermer le livre rugby et d'en ouvrir un autre à 100%. Mais j'ai toujours, quand j'étais jeune, ma maman m'a poussé pour que je fasse des études, pour pas que j'arrête juste à bah, 18 ans, 19 ans. Tu vois, quand je commence, elle m'a dit non, tu essayes de faire ton école de commerce, tu y vas, c'est chiant, mais tu sais pas de quoi demain sera fait, etc. Donc, elle m'a pas lâché. Et puis j'ai toujours eu, enfin, ça m'a toujours plu d'essayer de découvrir voilà, d'autres choses, de pouvoir aussi, faut pas se leurrer, tu vois, à travers le rugby, tu arrives à rencontrer des gens à un âge assez jeune que tu pourrais pas rencontrer si tu étais simplement étudiant ou si tu étais en début de carrière de salarié ou d'entrepreneur ou ce que tu veux. Donc, il faut aussi mettre à profit voilà, ces opportunités, cette chance qu'on a de croiser des mecs, des présidents de boîte, des présidents de club, des mecs qui sont ultra compétents et ultra, enfin voilà, qui ont un niveau socio-culturel qui est bien supérieur à un gamin de 20 ans ou 25 ans ou même 30 ans, tu vois.
C'est vrai que là, enfin là, on va parler de reconversion, mais t'y es pas encore. Mais en fait, la vie d'un rugbyman, ou en tout cas la vie d'un sportif de haut niveau, et je vais prendre le rugby parce que c'est ce que je connais, hein, c'est tout est fait en accéléré. C'est-à-dire qu'à 19, 20 ans, comme tu l'as vécu aussi, à 19, 20 ans, tu te retrouves à jouer devant des stades pleins avec des mecs qui sont des papas. À un moment où, en fait, tes potes qui sont dans la vie normale, et ce que je disais en introduction, sont en train de faire leurs études, pour peu que tu gagnes un titre en moins de 20 ou que tu, voilà, que tu aies une belle performance sur le terrain, ben, c'est comme avoir un diplôme, quoi. Tu franchis des étapes au fur et à mesure, mais c'est beaucoup plus accéléré. Tu te retrouves à être responsable. Aujourd'hui, on demande à un jeune de 18, 19 ans d'être responsable de sa diététique, responsable de son corps, responsable de son mental, responsable de son image. On a parlé des réseaux sociaux. Donc, tout est accéléré. Et quand tu te retrouves à 30 ans, 31 ans, comme tu le vis là, qui est, comme je dis, à deux tiers d'une carrière, et c'est Benjamin Kaiser qui disait, mais les mecs vont pas faire 15 ans de carrière comme nous on a fait, pas comme moi, mais comme nous on a fait. Et si, c'est
Ouais,
encore
bien
possible,
sûr.
tout dépend des postes.
Ouais,
Mais
bien sûr.
tu te retrouves à 30 ans à un moment où, ben, pour ce que tu vis là, en fait, tu dois te remettre en question, même si tu n'y es pas encore et tu as encore ce challenge aux États-Unis, de devoir te dire, ouais, en fait, ça va vite. Et que, au moment où les gens dans la vie normale, une fois de plus, sont en ascension professionnelle, nous, il faut déjà commencer à anticiper aussi l'avenir, la suite. Moi, la question que je me pose, c'est où tu te vois dans 10 ans. Alors, vu ton discours aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que tu sois justement à te projeter, que tu sois de cette nature à te projeter dans 10 ans aux États-Unis, en France, t'en sais rien.
Bah écoute, je pense aussi dans 10 ans, je pense qu'on sera aux États-Unis pour la simple et bonne raison que ça soit ma compagne ou mes enfants, on la green card. Donc à terme, on posera nos valises là-bas. Dans 6 mois, 3 mois, 15 jours, je sais pas. Mais oui, on a avec ma compagne, avec nos enfants. Voilà, cette envie à terme, de toute façon, de eux déjà parce qu'ils ont les papiers américains, moi parce que je vais faire ma demande, etc., de vivre là-bas. Aujourd'hui, c'est exactement pareil que la reconversion, t'es un peu t'es dépendant des autres autour de toi et des offres et des demandes, si tu veux, parce que tu veux pas arrêter de jouer. Une fois que t'as raccroché, c'est différent, tu vois. Tu peux pleinement te focaliser sur un nouvel objectif, sur un nouveau mode de vie. Aujourd'hui, j'essaye de jongler, mais voilà, j'ai toujours quand même le rugby dans un gros coin de ma tête, enfin, une grosse partie de ma tête, on va dire.
Justement, Hugo, est-ce que tu appréhendes le moment, au fil des échanges, on a le sentiment que ce moment où tu vas te dire, bon, bah, le rugby, c'est fini, tu l'appréhendes un peu. On discutait dans une récente émission avec Dimitri Yajvili qui disait, il n'y a pas de petite mort du sportif, ça n'existe pas, c'est une vraie mort. On doit faire le deuil d'une vie pour en reconstruire une nouvelle. Est-ce que toi, tu appréhendes justement ce moment et que tu repousses finalement peut-être l'échéance en espérant pouvoir poursuivre cette aventure de rugbyman?
Non, parce que comment dire? Parce que je me fais à l'idée que petit à petit ça va arriver, tu vois, plus rapidement que ce que je l'aurais aimé probablement, d'une manière un peu plus délicate ou différente de ce que j'aurais aimé, mais c'est comme ça. Alors après, comme je dis précédemment, il y a deux choix, quoi. Soit commences à faire ça et tu t'en sors jamais, soit tu te dis, bon, bah, j'ai fait ça, j'ai eu cette chance, j'ai rencontré ça, j'ai eu, grâce au sport, j'ai connu ça, j'ai voyagé, j'ai fait ça. Maintenant, il faut comme dit Dimitri, il faut basculer. Basculons à 100%. Mais ce que je veux pas, c'est le faire à moitié. Tu vois? Et c'est ce qui est dur aujourd'hui, c'est parce que, comme tu dis, j'essaye de préparer quand même mon après-carrière. J'ai des investissements immobiliers. On a ouvert une société immobilière avec ma compagne aux États-Unis aussi pour. Voilà, parce que l'immobilier là-bas est différent et très intéressant aussi. Donc, j'ai ça. Ça m'intéresse. Je veux le faire grossir, je veux pas me retrouver en slip entre guillemets une fois que tout s'arrête. Mais et donc voilà, c'est aussi pour ça que j'appréhende pas plus que ça parce que je sais que je suis pas non plus à poil derrière, tu vois. J'essaye de mettre de plus en plus de choses en place pour que la transition entre guillemets se fasse d'une manière un peu plus facile. Mais je comprends tout à fait ce que dit Dimitri. Tu vois, Dimitri, il était aussi international, mais bien plus que moi. Tu vois, il avait 60 ou 70 sélections. Il a porté un club, il a gagné tout pendant des années avec le BO. Tu vois, moi, il y a un déclin un peu plus. Enfin, tu vois, c'est plus. Ça va moins. C'est moins drastique, tu vois. C'est moins lumière allumée, éteinte. Tu vois, petit à petit, malheureusement, là, je suis dans une situation un peu plus délicate. Donc, il faut que je trouve d'autres choses.
Qu'est-ce qui te, Hugo, moi je sens dans ton discours depuis le début, il y a une forme de, alors c'est une forme de sagesse, mais c'est plutôt chouette en plus à ton âge. Où, est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est ton parcours qui fait aussi qu'il y a un moment où il a fallu aussi relativiser? Est-ce que c'est l'arrivée des enfants? Est-ce que c'est ta femme qui t'apaise? Ou est-ce que tu es de cette nature-là? Parce qu'en fait, de l'extérieur, on ne te connaît pas. Enfin, personnellement, je te connais peu, même si on s'est croisés, mais. C'est qu'est-ce qui t'apporte cette espèce d'impression de relativiser un petit peu ce que tu as, est-ce que tu vis, est-ce que tu as vécu, est-ce que tu vas vivre. C'est
Bah parce
posé
que
comme discours, je trouve.
plus jeune, je relativisais pas grand-chose. Donc, tu as l'énergie, tu vois. Mais est-ce que ça change? Non. Malheureusement, tu vois. Je peux m'énerver et me taper la tête contre les murs toute la journée, mais est-ce que ça va changer le fait que j'ai plus mal au genou? Si demain, tu me dis, tape 500 fois contre un parpaing, tu auras plus mal au genou, je vais le faire. Hein. Mais est-ce que j'aurai plus mal au genou? Non. Tu vois, il y a des trucs qu'il faut vivre avec, malheureusement. Comme toi, tu l'exprimes et que tu l'expliques, tu vois, avec ta sensibilité, avec ton histoire, ton parcours et ce que tu ressens. Et voilà, moi, je l'exprime comme ça. Après, ouais, tu vois, les enfants, pour moi, ça a changé aussi beaucoup de choses dans le sens où bah, tu peux plus penser exclusivement que à toi, tu vois. Tu n'es plus auto-centré et Dieu sait que je le suis. Hein. Dieu sait que j'ai pu être égoïste à 500 millions de pourcents, tu vois. Parce que c'est toi, parce que tu veux ça, parce que tu veux ça. Et après, tu te dis, je suis plus tout seul. Donc, soit je continue à être comme ça et ça tout va exploser, parce que c'est pas possible, tu vois. Soit j'essaye de changer un petit peu. Et après, parce que tu as tes ambitions personnelles, tu vois. Moi, je mettais tout. Enfin, j'essayais de tout faire pour jouer en équipe de France parce que je pense que c'est le niveau ultime du rugby français, c'est de jouer pour ton pays. Et donc, ça, tu te lèves le matin avec cette ambition-là. Aujourd'hui, je sais que je peux plus, tu vois. Parce que même si je redonne tout, mon corps, il me donnera pas ce qu'il m'a donné pour que je sois en équipe de France. Donc déjà, tu vois, c'est tronqué, mon envie et la réalité des choses. C'est plus la même, tu vois. Même si je veux, je sais qu'au fond de moi, tu vois, je peux me mentir, mais ça sert à rien.
Mais tu t'imagines quand même que ce discours-là, tu l'as normalement à 50 ou 60 piges.
Ouais, mais si on peut éviter de perdre du temps, parce que comme tu le dis, tu vois, au rugby, tout, si tu veux, on va dire que dans une vie normale, tu as une ascension linéaire et on va dire que tu es en fonds euro à 3%, et nous, c'est du 25%, mais en plus, c'est en moins, tu vois. Donc, c'est exactement ce que tu dis, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce qu'il faut, c'est que sur 10 ans, et c'est que, in fine, tu vois, tu sois arrivé plus haut que où tu es démarré. Mais tu apprends, tu. Voilà, c'est tu. T'as une, c'est exactement ce que tu as dit. T'as une première vie un peu en accéléré où tu découvres plein de choses et puis à un moment, bah, ça s'arrête et voilà, tu bah, t'es obligé de grandir parce que y a moins d'assistanat.
Alors justement, pour rejoindre un petit peu votre propos sur tout ce que disait Raphaël, effectivement, il y a beaucoup de sagesse dans le propos d'Hugo, ce qui n'a pas toujours été le cas, il l'a dit. Il y a quelques années, il était peut-être un peu moins sage, en tout cas, dans son propos, mais il y a quelque chose, pour l'avoir connu longtemps quand même, à l'époque où il était au plus haut niveau, c'est quelqu'un de très pudique, qui partage peu ses émotions, peut-être même pas avec son entourage. Je parle sous le contrôle d'Hugo, il me dira ce qu'il en pense. Mais on va aborder un pan de ta carrière qui a été beaucoup plus florissant, entre guillemets, que celle que tu peux vivre aujourd'hui. 11 sélections quand même avec l'équipe de France pour un joueur qui disait qu'il avait été des milliards de fois nul. J'ai du mal à cautionner ton propos, Hugo. 11 sélections avec l'équipe de France, un titre de champion de France avec le Stade français, un titre de Challenge Cup en 2017 également avec le Stade français. Ta carrière, elle est essentiellement marquée par ta période parisienne. On a l'impression qu'on a perdu un peu ta trace après à Toulon, même s'il y a encore quelques sélections à l'époque où tu portes le maillot du RCT. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets finalement aujourd'hui à avoir quitté Paris?
Bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, des regrets. Pas des regrets, mais je me rends compte aujourd'hui de la chance que j'ai eue à ce moment-là. En fait, c'est pas des regrets, c'est juste un regard extérieur, tu vois. Parce que quand tu es dans le truc, comme dit Raph, en fait, tu vis le truc au quotidien. Et en ayant quitté le Stade français et en repensant à certains. Putain, je me dis, en fait, c'était la folie, quoi. C'était génial. C'était dingue. C'était dingue, mais quand tu es dedans, tu te le dis pas. Parce que c'est normal. Parce que tu connais que ça. Parce que tu as vécu que à Paris. Mais parce qu'à Paris, tu peux tous les soirs de la semaine aller bouffer au resto en étant tranquille. Tu vois, parce que tu es inconnu à Paris. Tu vois, tu peux sortir dans une boîte tous les week-ends différentes pendant un an quasiment. Tu vois, et puis sur le terrain, avec le recul, putain, on avait une équipe de dingue quand même. Tu vois. On avait quand même un putain de groupe. Et puis, ce qui est exceptionnel, c'est que on était une dizaine à avoir été en jeune ensemble, tu vois. Une dizaine, même peut-être une quinzaine, tu vois. Et ça, c'est dingue, tu vois, avec le recul. Donc, ce n'est pas des regrets, c'est juste de se dire, waouh, c'était quand même vraiment cool, tu vois. Après, de se dire, ouais, tu vois, l'année particulière où un peu tout se casse la figure, mais tu sais, tu t'entendais, il y avait des mecs qui en voulaient parce que Monsieur Savard, Thomas voulait vendre, il disait non, mais il joue avec nous, non, le mec, il met son argent, il n'a plus envie, tu peux pas reprocher ça à quelqu'un, tu vois, c'est son argent, c'est pas le tien, tu vois, vas-y, dépense le tien si tu veux, mais tu le fais pas, tu vois, un mec qui met de l'argent tous les mois et tu peux pas lui en vouloir, mais tu te rends compte que, tu vois, Rabat re-signe pas. Parce que l'élément déclencheur pour moi, c'est Rabat, parce que
Vous
Rabat
étiez très
re-signe
lié
pas.
avec Rabat.
Ouais, beaucoup. Et puis il m'avait appris, il me le dit à Marc aussi. On était ensemble dans la chambre et il me dit qu'il finalement signe à Clermont. Mais le Stade français, enfin, le re-signe pas. Enfin bon, il y avait eu après ça les histoires, agents, trucs, je ne sais pas. Mais tu vois, et après, c'est l'effet domino, tu vois. C'est Rabat, c'est exactement ce que je dis. C'est Saint-Zel et Doom qui partent à La Rochelle. C'est Jono Ross qui rentre à Sale. C'est Lacaf qui signe à Toulon aussi. C'est Will Genia qui rentre en Australie. C'est Gonzalo aussi, tu vois, qui arrête. Et tu vois, c'est toute cet effet domino avec en point d'orgue, si tu veux, au mois de mai, quand tu apprends la fusion possible. Je ne sais pas si c'était bien ou pas, tu vois. Et comme je te dis, quand ce n'est pas ton pognon, c'est trop facile de critiquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop facile de. Probablement que la communication a été très mauvaise. Est-ce que économiquement parlant et financièrement parlant, c'était le meilleur truc? Peut-être, tu vois. Je pense pas que ces deux présidents qui soient deux chefs d'entreprise très intelligents et c'est, tu vois, ils font pas des choses stupides. Alors peut-être que la communication a été horrible, probablement, et qu'il aurait dû, enfin, tu vois, certains joueurs, je parle pas de moi, mais tu vois, des joueurs emblématiques, des joueurs cadres, des trucs, enfin, qui auraient dû peut-être être au courant, tu vois. De tout ce qui se faisait, mais j'ai pas de regret. Je me dis juste, putain, je filerais quand même un petit billet pour refaire un an. Tu vois, un an, mais de l'année, tu vois, d'avant. Parce que c'était vraiment cool. Et je profiterais d'autant plus. Ouais.
Vous vous êtes croisés tous les deux parce qu'il y a une forme de filiation quelque part. La génération dont Raph fait partie, la génération champion de France Réchelle 99, avec les Blin, les Rabadan, les Foissac, enfin voilà, Salim Tebani, j'en oublie évidemment plein. Mais voilà, est-ce qu'il y avait une forme de filiation entre vos deux générations? Est-ce que le petit Bonneval avait des posters de Raph Poulain dans sa chambre, par exemple?
Non, c'est pas du tout le même jeu. Je suis persuadé que non, je savais pas faire une passe, mais c'est pas pour me dénigrer. Loin de là, j'avais d'autres qualités. Mais vu la qualité
il faisait
de
mal,
jeu,
il faisait
Hugo
mal
et la
que moi,
mienne.
j'ai jamais fait mal à personne, par contre, moi.
Ouais, si, non, t'as fait mal psychologiquement. Je me retrouve face à toi un jour ou l'autre, mais bon, ce sera pas le cas et ça n'arrivera jamais. Mais je pense que tu m'aurais bien mis dans les tribunes. Donc, je pense que c'est pas physiquement, mais psychologiquement, tu m'aurais bien fait mal. Par rapport à ce que tu dis, ce qui est intéressant, en fait, c'est que j'avais l'impression de m'y retrouver, mais les deux pieds, les deux mains. On parle du même Stade français et c'est ce qu'a créé Max, justement. Moi, ma génération, ta génération, avec les Plisson, les Flancard et tout ça, les Slimani. Moi, la mienne, c'était Momo Blin, Pierrot Rabadan, c'était Nico Raffo. On avait une génération de mecs et la manière dont on a été intégré en 99-2000 au sortir de ce titre, je suis persuadé, en fait, que à 20 ans, enfin, à 32, 33, 34 ans, pour bien, très, très bien connaître Pierre, pour très bien connaître aussi Jérôme Fiol, Gonzalo Quesada, la transmission, elle se passe là, en fait. Elle se passe quand les Domi te tirent la main, quand tu viens de faire une boulette en 2000 où tu marques pas l'essai, ou à Agen, je marque pas l'essai alors que j'ai un boulevard devant moi. Je suis persuadé qu'un Pierrot Rabadan va tendre la main à un Hugo ou à un Rabat en lui disant « vas-y, lève-toi ». Et c'est des petits signes, en fait, qui montrent en fait une culture club où tu as des jeunes issus de la formation. Alors nous, on venait d'horizons différents, mais on a quand même vécu 2-3 ans en Réchelle ensemble. On a gagné ce titre ensemble, cette génération-là. Donc et on l'a entendu, cette génération. Après la nôtre, on l'a entendu, 2007-2008… Voilà, ça a commencé à arriver. Et exactement comme ce qui s'est passé avec le Stade toulousain, où il y a toute une génération qui, en 2012-2013, arrête. Il y a eu un creux, et puis après, il y a une forme de renaissance. Le Stade français l'a eu un petit peu plus tôt, avec ta génération. Et c'est ça qui est génial dans le rugby, mais que tu retrouves dans tous les petits clubs aussi amateurs. Quand on arrive à fidéliser justement ça et à créer une culture club, ben, ça permet de gagner des titres. Et surtout, ben, de vivre comme le vit un petit peu Hugo aujourd'hui, et comme je le vis moi depuis des années, mais bon, ça y est, j'ai franchi le cap, tout va bien, mais il y a toujours cette nostalgie du bordel. C'est un truc magnifique. Le Stade français, comme le dit Hugo, c'est que tu fais un mauvais match, le lundi matin, tu vas acheter ta baguette de pain, ta boulangère, elle te casse pas les couilles. Et ça, c'est quand même hyper important pour la psychologie d'un joueur. Après, par contre, il l'a dit, les boîtes de nuit, bon, moi, c'était les bagnoles, t'as tout. Tout est ouvert. C'est-à-dire que quand tu découvres ce milieu-là, en plus, avec la notoriété, avec 10 000 personnes, 80 000, je ne l'ai pas connu, mais 80 000 personnes au Stade de France. Mais tu rêves. Et donc, quand tu as des gens derrière qui viennent te dire ouais, mais lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, mais vas-y, tiens, lave-la la gamelle. Va vivre ce que j'ai vécu. C'était monstrueux. C'était extraordinaire. C'était magnifique.
Ouais, tu confirmes, Hugo?
Oui, et encore, tu vois, moi, je n'ai pas connu ce qu'ils ont connu avant, que certains nous ont un peu raconté, qui étaient encore, tu vois, démultipliés. Quand même, parce que c'était, enfin, j'ai l'impression, tu vois, quand bon.
Alors, je te coupe juste deux secondes. Le titre qu'on gagne en 2000, la finale de, enfin, Domi qui marque au Parc des Princes devant 80 000 personnes, tous ces moments-là, en fait, forts, oui, les titres.
50 000, le Parc des Princes, c'est déjà bien.
Non, les ouais, mais après, au Stade de France, que la transition, ah, elle se fait là. Mais Hugo, ce que vous vivez en 2014-2015, on peut dire oui, le Stade français, la révolution des années 2000. Ce que vous vivez en 2015 avec ce déclic où Sergio il prend un carton rouge, où derrière vous jouez à 14, vous gagnez contre le Racing au Racing, et ouais, derrière vous lancez votre point de... Mais c'est monstrueux, et c'est ça, ouais, en fait, ce moment où le Stade français a cette capacité que nous on avait dans les années 2000 et que vous avez réussi à faire.
Ouais.
On parle pas du stage à Tignes, hein, Hugo.
Tignes, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y en a eu quelques-uns, ouais.
Bah non, mais il y a le stage du mois de février. Ou Val d'Isère, peut-être, je dis une bêtise.
Ah non,
c'est Tignes ou Val d'Isère?
Ouais, Val d'Isère, ouais.
Val d'Isère,
ouais. Ouais, mais tu vois, là-dedans, c'est... Ouais, mais tu vois, Gonzalo, il était bon. Et tu vois bien, il est revenu là. Bon, ils ont perdu le premier match face au Racing. Bon, c'est toujours chiant pour eux, mais l'année dernière, ça se passe pas bien. Il arrive à accrocher les 6, etc. Il était bon parce qu'il nous gérait. Voilà. Parce qu'il nous gérait et qu'il arrivait à... On est tous différents, tu vois, tu n'es pas copain avec 40 mecs, c'est pas vrai, et on t'es pas tous les mêmes. Eh ben, il avait cette faculté, cette capacité à gérer, on en parlait un peu tout à l'heure, Arnaud, un djib d'une manière, moi d'une autre, un étranger d'une autre manière, Sergio, d'une autre. Voilà. Et la mayonnaise, elle prenait. Elle prenait. Et ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est pas des regrets, mais c'est juste de se dire, waouh, c'était quand même vraiment cool. Et il y avait en plus de ça des mecs qui étaient vraiment, vraiment des mecs, des bons mecs, tu vois. En plus d'être des joueurs exceptionnels, un mec comme Sergio, tu vois, ça me fait chier de ne pas avoir joué avec lui à Toulon, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait chier parce que c'est en plus d'être un joueur exceptionnel, tu vois, ce qu'il fait tous les week-ends, c'est quand même un mec cool, tu vois. Et moi,
C'est un drôle
pareil,
de mec, hein.
il était cool, tu vois, avec moi. Et à Toulon, j'aurais kiffé jouer avec lui, tu vois, parce que c'est cool. Tu vois, la grolle, Dupuis, tu peux dire ce que tu veux, tu vois. Mais putain, en neuf, quand même. Tu vois, il y a des matchs, donc gérer les matchs, tu vois. Alors, avec ses qualités, avec ses défauts. Mais merde, tu vois. Plus tard, avec le recul, quand tu joues avec d'autres joueurs qui ont d'autres qualités aussi, tu te dis quand même la grolle. Hein? C'était quand même sympa de l'avoir avec toi, tu vois. Quand fallait gérer à droite, à gauche, le truc, le pied sur le ballon, les coups de pompe, les passes, il gérait tout, tu vois. En fait, ces mecs-là, ces 3-4 grands joueurs que tu avais là qui étaient beaucoup plus vieux que toi, ils t'enlevaient un nombre d'épines du pied qui était exceptionnel, tu vois. Moi, au fond du terrain, c'était génial. À l'arrière, je relançais. Ah, putain, si tu relances, c'est génial. Mais enfin, tous les ballons de merde, c'est Sergio qui les prenait sur la tête, hein, tu vois. Non, mais et ouais, donc j'avais les bons ballons, donc c'était cool. Et moi, quand je voulais relancer, Sergio, il était toujours à côté de moi, tu vois. C'est des trucs comme ça, tu vois, en évoluant. Mais quand tu es dedans, quand tu connais qu'un système de jeu, c'est normal, tu vois. C'est après, en changeant, que tu te rends compte, en fait, de la qualité et des trucs avec. Enfin, tu vois, et des manières de jouer, de voir le rugby que tu avais. Et donc, ouais, c'était très cool. Mais donc, j'ai pas de regrets, tu vois. J'ai vraiment pas de regrets. Mais
On vous
juste,
entend
je me dis,
parler
putain, c'était cool.
Quand on vous entend parler de vos générations respectives, on voit que Raph aujourd'hui est toujours très proche d'un certain nombre de joueurs avec qui il a évolué à l'époque. Je pense à Pierre Rabadan, Samy Tebani. Hugo, qu'est-ce qu'il en est pour toi justement de toute cette génération de joueurs, la Flanque, Alexandre Flancard qui est aujourd'hui à Provence Rugby, Rabah Slimani qui est à Clermont, Jules qui est à La Rochelle.
Mais
Voilà,
ouais,
est-ce que vous
bah,
avez
je pense
gardé.
que à la différence de Raph, tu vois, malgré tout, on s'est tous éclatés. À part, tu vois, il doit rester que la Burbe, qui est le dernier des dinosaures. Il a joué avec toi, la
Ouais.
Burbe, peut-être un peu. Il a commencé avec toi, Raph, je sais même pas.
Non, parce que j'arrête en
Non,
2000,
non.
2005 au stade et il
Hein?
arrive en 2000, 2007, lui.
Ouais, mais bon, enfin, tu vois, qui est vraiment le. On a tous un peu éclaté, donc le rugby aussi s'est professionnalisé avec tout ce que ça comporte en termes de transfert, en termes de. Tu vois, tu me disais Jules est parti, mais je ne sais pas s'il avait envie de partir au moment où il est
Bien sûr.
parti. Tu sais, je sais que ça ne se passait pas spécialement bien avec le coach à l'époque. Et donc voilà, tu vois, le professionnalisme a fait que tu voyages beaucoup plus, que tu te disperses beaucoup plus. Bien évidemment que c'est des joueurs qui resteront. Des joueurs et des hommes qui resteront gravés dans ma tête et dans mes bons moments, tu vois, de vie, de carrière. Donc, tu peux pas oublier tout ça. C'est sûr, tu vois. Parce que c'est ce qui te fait aussi te construire en tant que. Enfin, tu vois, quand tu commences avec des mecs à 15 ans, tu joues avec eux jusqu'à 25 ans, 26 ans, tu as fait plus de 10 ans. Sur une vie d'homme d'un mec de 30 ans, tu as passé un tiers de ta vie avec ces mecs, tu vois. Même un peu plus, tu vois. Donc, bien évidemment qu'ils ont un impact sur toi, que c'est quelque chose qui est plus fort que simplement. Faire 26 matchs plus, enfin, tu vois.
Raph, on va arriver à la fin de cette émission. J'aimerais bien que tu nous donnes un peu ton sentiment. On a écouté Hugo durant presque une heure
Bah, je parle beaucoup, tu vois, finalement.
sur son actualité, sur son avenir, sur le passé. Dis-moi si je me trompe, Raph, et ce sera le mot de la fin, mais il y a beaucoup de similitudes dans vos parcours.
Oui, même si je pense que, comme l'a dit Hugo, même s'il parle beaucoup aujourd'hui, j'en suis ravi et on en est ravi, c'est que c'est plus un introverti et que moi j'ai été extraverti. Donc on a un parcours à la fois similaire en tout cas, de ressentir les choses. Moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant une heure là, c'est de ressentir les choses, c'est les émotions que les potes t'apportent, que le rugby t'apporte. Mais cette sagesse, à 30 ans, moi, elle m'éclate parce que je trouve ça assez fort. Et quand je dis que le rugbyman peut inspirer, le monde d'aujourd'hui, le monde moderne d'aujourd'hui, c'est que c'est un parcours en accéléré où il y a un moment où soit tu prends conscience, soit tu restes sur le bord. Et cette capacité qu'a Hugo à analyser, déjà une analyse sur soi-même. Donc je pense que la psychologie, même si on n'est pas trop d'accord, enfin en tout cas, tu es peut-être un peu réticent par rapport à ça, tu l'as parce que tu as quand même un recul sur toi-même qui est quand même assez assez fort, chose que moi j'avais pas, donc c'est peut-être ce qui nous différencie. Mais dans la manière de jouer, je pense que c'est l'amitié, le fait d'avoir joué avec des grands noms et enfin, pour ma part, moi j'étais une étoile filante au milieu d'une constellation de stars et c'est ça qui est assez fort, c'est que on n'a pas chopé le melon et ça c'est peut-être l'image qu'on avait de l'extérieur. Moi, en attendant, quand tu joues avec des mecs comme Domi ou peut-être Hugo me le dira, mais quand tu joues avec des mecs comme Pierrot, comme Sergio, tu peux pas te permettre de choper le melon. Donc il y a cette maturité, cette humilité aussi, cette remise en question. Et je trouve ça très très courageux de sa part. Moi, quand en 2005 Perpignan ou Clermont on m'appelle, j'y vais pas parce que j'ai peur de quitter le nid en fait. Et pourtant je l'avais quitté quelques années auparavant. Hugo quand même qui part de Paris, qui est quand même sa ville, qui va à Toulon, qui va à la section et qui arrive à se remettre en question et qui aujourd'hui père de famille prend toute sa famille pour partir au bout du monde, en tout cas Miami, pour pouvoir se relancer, avoir ce dernier challenge, je l'aurais pas fait. Donc chapeau à lui et voilà ce qui peut nous différencier, c'est peut-être l'audace et aussi le courage. Même si l'audace aujourd'hui je l'ai, mais voilà cette maturité, je pense qu'elle fera du bien à beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast et puis enfin de pouvoir mettre des mots sur le mec quoi. Parce que ce mec, moi, pour moi, Hugo, t'étais énigmatique, quoi. Même si on s'était croisé, mais t'as quand même un regard, tu vois, assez perçant. T'as un truc où tu sens que le mec t'analyse et te décrypte d'un coup, quoi. Et là, le fait d'avoir son point de vue, le fait qu'il s'ouvre, ben, je suis ravi. Et puis, ça donnera peut-être aussi, je dirais, confiance aux personnes qu'on invitera au fur et à mesure. Hugo Bonneval, mesdames, messieurs, est venu dans Poulain Raclute. Tout le monde peut venir. Voilà.
Non, mais merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci Arnaud pour l'invitation. Merci Raph, voilà, d'avoir discuté avec moi. C'est très plaisant et non, voilà, merci beaucoup. J'espère vous recroiser très vite au bord d'un terrain, Arnaud, ou autour d'un verre.
Avec grand plaisir.
De San Pellegrino.
Avec grand plaisir.
Et voilà.
Alors moi, juste une dernière chose et on conclura là-dessus, Arnaud.
Excuse-moi.
Merci. Non, mais je prends, hein, t'inquiète pas, je prends. Arnaud, merci pour l'émission. Moi, je voudrais juste un truc, c'est que le moment, en fait, où tu es sur le terrain, appelle-nous et on se fait juste 10 minutes, juste une petite interview sur ce qui s'est passé entre le moment où on va raccrocher ici et le moment où tu as le terrain. Non, pas de dédicace pour moi. Non, sûrement pas. Non,
avec c'est plaisir. Avec plaisir, tu sais.
Ah ben alors, je prends avec grand plaisir parce que vraiment, j'y crois et je te le souhaite vraiment. Non, c'est de se dire, on prendra juste 5-10 minutes. On fera un truc court qu'on pourra greffer dans une émission courant de l'année. Mais quand tu retrouves le terrain, un petit texto en disant, allez, je suis prêt. On te fait une interview de 5-10 minutes. Comment s'est passé le retour? Tu es sur le terrain et on passe à autre chose. Mais au moins, tu vois, d'avoir ce suivi, qu'on ne te lâche pas en pâture pendant 3 ans. Et ça serait vraiment cool. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud.
Avec grand plaisir.
Bah, c'est très, très gentil. C'est très gentil. Merci beaucoup.
En espérant que le décalage horaire soit pas trop grand. Hugo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de t'être livré comme tu l'as fait. On sait que tu n'es pas de nature très expansive. Donc, un grand merci. On te souhaite évidemment le meilleur pour les semaines, les mois, peut-être les années à venir. Un genou, peut-être pas tout neuf, mais au moins en capacité de jouer encore une trentaine ou une quarantaine de matchs, sait-on jamais, à 30 ans. Il y a encore des ailiers qui jouent à 32, 33, 34, voire même 35 ans. Qui sait, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Un grand merci à tous les deux pour cet échange très riche. Poulain Raclute, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.